Vous écoutez RTL.
Première radio de France. RTL.
C'est le transfert le plus cher de l'histoire du football. Neymar quitte le Barça et va rejoindre le PSG.
Le nouveau numéro 10, Da Silva Santos Junior.
Le prix du transfert de la clause libératoire, 222 millions d'euros.
La curiosité est un vilain défaut.
Le très talentueux Kylian Mbappé vaut-il 180 millions d'euros?
Bien, Kylian Mbappé à 18 ans, il va forcément progresser.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, jusqu'à 15h sur RTL.
C'est le 14h-15h sur RTL et vous l'avez compris, on parle de la folie du foot avec Julien Marival qui est journaliste au Parisien Magazine. Aujourd'hui en France, vous publiez un article sur ce thème en partenariat avec RTL. On vient d'entendre quelques-uns des noms qui ont rythmé notre été et qui rythment la rentrée puisque ça continue ce mercato, ce marché des joueurs jusqu'à ce soir minuit. On va commencer et on a décidé de parler des hommes de l'ombre, c'est-à-dire ces agents de joueurs. Certains sont très puissants et donc très riches. On commence avec un certain Pini Zahavi. Dans quel transfert a-t-il joué un rôle central cet été?
On n'est pas vraiment sûr, mais c'est un nom qui est revenu. C'est les médias espagnols qui l'ont cité. Donc, c'est des gens qui sont tellement mystérieux, en fait, qu'on suppose qu'ils sont intervenus, mais leur rôle n'est pas...
Il n'y a jamais de rôle officiel.
Théoriquement, son rôle doit être indiqué sur le contrat qui a été déposé à la Ligue pour homologation, parce que les contrats de vente, on est obligé d'avoir les commissions de chaque intermédiaire. Donc théoriquement, son nom est inscrit quelque part, notamment dans les coffres de la commission juridique de la Ligue professionnelle. Mais sinon, c'est un nom qui est...
Ça se trouve, il n'existe pas. Ils sont plusieurs derrière ce nom.
Il y a beaucoup de photos.
S'il y a tellement d'argent en jeu.
On sait qui c'est. Il y a des photos de mes amis. Bon. Mais alors, vous ne nous avez pas dit dans quel transfert il était intervenu.
Pardon,
celui de Neymar. Le Brésilien qui a débarqué au PSG.
J'ai apparemment Aurier qui vient de quitter PSG pour aller à Tottenham. Il aurait aussi été dans les coulisses pour essayer de faciliter le transfert, un transfert qui prenait du temps. Donc c'est quelqu'un, en fait on l'appelle Mr. Fixit, quelqu'un je répartout dès qu'il y a un problème de montage, de choses comme ça, c'est comme des sommes extraordinaires. Il arrive pour faciliter les paiements et faire en sorte que le transfert à la fin se fasse.
Puisqu'on parle d'argent, combien il a gagné ce Zahavi?
Encore une fois, c'est un truc qui n'est pas vérifiable. Les médias espagnols parlent de 36 millions d'euros de commission uniquement sur le transfert de Neymar, sachant que c'est sans doute un pourcentage des revenus du salaire du joueur et pas du montant du transfert.
Comment ça marche, tiens? Expliquez-nous. Cet argent versé aux agents de joueurs, c'est pas une somme énorme d'un seul coup? C'est quoi?
En fait, c'est un pourcentage sur le revenu annuel ou global du joueur sur le contrat. Et en fait, c'est des gens qui touchent entre 6 et 8% en France. Peut-être que pour Zahavi, c'est encore plus. 6 et 8% du salaire annuel brut chaque année.
Donc ça veut dire que ces agents de joueurs ont tout intérêt à faire monter les enchères, à dire que le joueur n'a pas vraiment envie, que les conditions ne sont pas excellentes. C'est un peu le rôle et la pression que marquent les agents de joueurs dans ces grands mercato.
Là, c'est le mauvais rôle des agents. Ils sont intéressés sur le revenu du joueur, donc ils ont tout intérêt à faire monter les enchères, mais ils sont surtout là pour accompagner le joueur, pour lui donner des conseils.
Là, on vous avez touché une commission, vous aussi, ou quoi?
Non, je n'ai pas touché une commission, mais en fait, on en parlera. Il y a très peu d'agents qui touchent énormément d'argent la plupart du temps, et c'est des gens qui presque font leur métier à perte. Ils ont un boulot à côté parce qu'ils ont tellement de frais pour aller voir les joueurs, pour aller à droite à gauche, ce qu'ils vont toucher à la fin sur les contrats, c'est dérisoire par rapport à ça.
Oui, là on parle des stars du métier, même si elles ne sont pas connues du grand public. Ce Pini Zahavi, donc israélien, d'ailleurs il était journaliste au départ, journaliste sportif, et il est devenu ensuite agent. Est-ce que c'est vrai qu'il a un peu inventé le métier?
Il est cité dans un transfert en 1979 entre Israël et Liverpool, à une époque où il y avait très peu d'agents. En fait, les agents, ils ont commencé à apparaître au milieu des années 80 pour un peu renverser le rapport de force en faveur des joueurs, parce que c'était les clubs qui avaient la mainmise au début. Et donc oui, c'est sans doute, bon, il y a peut-être d'autres cas comme lui, mais c'est sans doute l'un des premiers qui a un petit peu participé aux négociations, sachant qu'il n'était pas professionnel, il était journaliste sportif. Ouais. Mais voilà, c'est le premier d'une longue lignée. En tout cas, j'ai eu des agents qui me disaient « Pini ». Il l'appelle comme ça Pini, c'est le premier, c'est lui qui a tout inventé.
Alors, autre agent de star, peut-être le plus riche de la bande, c'est Jorge ou Jorge Mendes. Vous pouvez nous le présenter?
Alors, Jorge Mendes, il a une cinquantaine d'années. Il est considéré comme le deuxième agent le plus puissant du monde selon Forbes. Donc, même pas le premier, parce que le premier, c'est un agent américain qui est dans le baseball, où les sommes sont encore plus délirantes. Et il a une centaine de joueurs et d'entraîneurs sous contrat, ce Jorge Mendes, pour une valeur qui est évaluée à 600 millions d'euros par an. Et parmi ses joueurs les plus connus, il a Ronaldo, il a Mourinho. Donc voilà, il a des très grosses stars qui lui ont permis de lancer un peu la machine.
Comment Jorge Mendes est devenu cet agent de joueurs de foot incroyable?
C'est un petit joueur de Division 2 qui était plus intéressé par le business que par le foot. Donc ouais. Il a vite arrêté sa carrière qui n'avait pas mené très loin. Il a ouvert un vidéoclub. Avec l'argent vidéoclub, il a racheté une boîte de nuit dans une petite ville au nord du Portugal. Alors certains disent qu'il a racheté cette boîte de nuit parce qu'elle était fréquentée par beaucoup de joueurs de foot des clubs des environs.
Donc il avait une idée en tête ?
Il avait sans doute une idée en tête et donc il était pas loin de clubs comme Braga ou comme Guimarães, des clubs célèbres de première division portugaise, pas les meilleurs mais des bons clubs. Ouais. Et en fait, il s'est rapproché petit à petit d'un client de sa boîte de nuit, qui était gardien remplaçant à Guimarães, un dénommé Nuno Espirito Santo, qui voulait changer de club et Mendes a réussi à le vendre de l'autre côté de la frontière à La Corogne, donc cette fois du côté espagnol. La Corogne qui était un club qui avait le vent en poupe, qui avait beaucoup d'argent à ce moment-là et donc voilà, c'était son premier transfert, c'était en 96 il me semble et il est parti comme ça et 20 ans plus tard,
Il pèse donc 600 millions d'euros, c'est ce que vous nous disiez.
Son portefeuille de joueurs et d'entraîneurs pèse ces sommes-là. Ouais.
Et donc parmi eux, le plus célèbre, le Portugais Cristiano Ronaldo, vainqueur du championnat d'Europe avec le Portugal l'an dernier, de triste mémoire pour nous Français. Ronaldo qui sait faire plaisir à ses amis et notamment à Jorge Mendes, que lui a-t-il offert pour son anniversaire ?
Alors c'est pas pour son anniversaire, c'est comme cadeau de mariage.
Ah, comme cadeau de mariage,
c'était
oui.
C'était il y a deux ans, il lui a décidé de lui offrir une île en Grèce, une île privée en Grèce dont la valeur était, j'ai lu, entre 3 et 50 millions d'euros, donc on n'est pas vraiment sûr. Et voilà, c'est son petit cadeau de mariage, sachant qu'ils ont des liens, pas de parenté, mais ils sont très très proches l'un de l'autre. Ronaldo le considère comme un deuxième père de famille. Et c'est d'ailleurs, Mendes est le parrain du fils aîné de Ronaldo, qui s'appelle Ronaldo Junior.
Julien Marival, on parlait de nouveaux maquignons. Est-ce qu'on peut dire que ces agents de joueurs, ils vendent leurs petits comme ça, comme des chevaux de course ?
C'est un terme un peu fort, parce que les agents, ils ne sont pas propriétaires de leurs joueurs. Ils ont juste un mandat de représentation pour les seconder lors de la négociation de leur contrat. Donc c'est un petit peu fort. Ensuite, parce que comme je vous disais, les joueurs, la plupart du temps, font, à 90% du temps, ils font de l'accompagnement. Ils vont voir les joueurs, ils discutent avec eux, ils les conseillent sur les meilleurs choix de carrière.
Ce sont des nounous un petit peu.
C'est un peu des nounous. Donc là, on en parle forcément des agents lors du mercato, parce que c'est là qu'ils interviennent pour la négociation des contrats, pour les transferts. Mais sinon, tout le travail de l'ombre qui coûte cher et qui rapporte rien, c'est de l'accompagnement. Et là, c'est pas des maquignons, c'est plutôt des nounous.
Et les Français dans tout ça sont-ils nombreux à vivre de leur métier d'agent, de joueur ? Réponse dans une minute sur RTL. C'est la curiosité et c'est le nouveau 14-15 d'RTL.
Vous écoutez RTL. RTL.
De 14h à 15h. 14h, la curiosité est un vilain défaut. Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Chaque jour, on répond aux questions qu'on se pose tous et à celles qu'on ne se pose pas.
Autour d'intervenants passionnés et donc passionnants.
15h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand.
Des thèmes qui nous concernent tous, de l'interactivité, mais des rires aussi.
À 16h, retrouvez Laurent Ruquier et les grosses têtes.
Vous faire rire en répondant à des questions culturelles ou des questions sur l'actualité, c'est le plaisir quotidien des grosses têtes sur RTL.
Découverte, partage, humour, dès l'après-midi sur RTL. RTL.
Les solutions, c'est vous, la presse. Faire l'investigation, c'est quatrième pouvoir, c'est la presse.
C'est la seule chose que je dirais pour le mercato, on prendra pas des joueurs pour prendre des joueurs.
Curiosité est un vilain défaut.
Si nous voulons que nous avons besoin de meilleurer quelque chose de l'équipe avec un joueur, un bon joueur, un joueur star.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Unai Emery et son accent improbable. En même temps, si je parlais espagnol, ce serait pas mieux. Rudy Garcia.
Oh bah l'anglais, c'est pareil.
C'est sympa, ouais, merci beaucoup. Et quelques entraîneurs de Ligue 1 qui parlent du mercato, puisque ça ferme dans quoi ? Dans une dizaine d'heures, hein, un peu moins même d'ailleurs, à minuit, tout rond. Un mercato complètement dingue, des sommes complètement folles, vous l'avez entendu. Julien Marival, journaliste au Parisien Magazine, aujourd'hui en France, vous signez une enquête sur ce thème en partenariat avec RTL. Alors moi, j'adore le foot, mais c'est quand même devenu n'importe quoi ces contrats. Grâce à Mediapart, on a appris il y a quelques semaines que Neymar avait un drôle de contrat. Lequel ?
Neymar, il avait signé un contrat avec il y a quelques années avec la filiale américaine des vignettes Panini, la vignette italienne. Et c'est un contrat en fait où il s'engageait à signer 600 autographes. Et pour signer ces 600 autographes, il a touché 40 000 euros. Donc Mediapart a calculé, ça faisait 66 euros par autographe.
Donc il était payé pour signer les autographes.
Payé pour signer les autographes derrière des vignettes de football.
Il y a beaucoup de choses qui se monnaient comme ça dans les contrats de joueurs de foot.
Il y a souvent des petits avenants au contrat. Par exemple, Thiago Silva, le brésilien défenseur du PSG, lui, dans son contrat, il a par exemple 8 allers-retours Paris-Rio pour lui et ses proches. Il a une allocation logement, il a des places en tribune VIP pour lui et sa famille. Il y a toujours des
tickets cantines, des trucs comme
sans
ça.
Sans doute
quoi.
Des tickets cantines et une carte pour la machine à café.
Et puis c'est un moyen de tenir les joueurs qui ont un comportement parfois un peu fougueux. Par exemple, l'Italien Balotelli qui joue à Nice aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y avait dans l'un de ses contrats ?
à Liverpool, donc entre 2014 et 2015, la saison 2014-2015, il avait une prime anti-crachat, qui était connue pour un peu péter les plombs sur un terrain. Donc, pour essayer de le tenir, Liverpool lui a fait signer une clause, comme quoi s'il était expulsé moins de 3 fois dans la saison pour crachat ou propos injurieux, il touchait 1 million de livres supplémentaires. Et résultat, Balotelli...
Attendez, j'ai pas compris. S'il n'était pas expulsé...
S'il était expulsé moins de 3 fois, donc il pouvait cracher...
Ah, donc il avait le droit de cracher deux fois.
La troisième fois, c'était 1 million de livres en moins, et résultat, cette saison, il n'a pas été expulsé une seule fois.
Je l'imagine en train de réfléchir dans les vestiaires. Moi, est-ce que je vais cracher aujourd'hui? Non, c'est pas raisonnable.
Non, ça me coûte trop cher. Oui.
Il y en a un qui peste contre ce mercato complètement fou, c'est Didier Deschamps, le sélectionneur national. Pour quelle raison il est mécontent?
Il est mécontent parce que ça fait sortir ses joueurs de 2 matchs très importants pour l'équipe de France ce soir contre les Pays-Bas et dimanche contre le Luxembourg. Ça les perturbe à tel point que si on peut penser par exemple qu'à Mbappé, si Mbappé avait été transféré beaucoup plus tôt, là il paraît que c'est pas encore fait, mais s'il a été transféré beaucoup plus tôt, il se sera entraîné, il aurait joué avec Monaco et donc il aurait été aligné ce soir avec l'équipe de France, ce qui ne sera pas le cas parce qu'il n'a pas joué depuis 15 jours, ce qui faisait un bras de fer avec son club pour être transféré au PSG. Donc ça perturbe tout le monde. Deschamps, il a dit, d'accord, moi je veux plus que les joueurs sortent du groupe de Clairefontaine, donc là où est stationnée l'équipe de France, jusqu'à dimanche soir. Et dimanche soir, on sera le 3 septembre, ça sera la fin du mercato, oui. Donc c'est-à-dire que les joueurs, soit ils passent leur visite médicale à Clairefontaine, et je pense que ça peut pas se faire, ou alors il faut vraiment avec un club français comme Mbappé et PSG qui ait quelques petites facilités, sinon ces joueurs-là, non, théoriquement, ceux qui sont appelés en équipe de France là, n'ont plus droit d'être transférés jusqu'à l'hiver prochain.
Ouais, Didier Deschamps qui a refusé de sélectionner Ousmane Dembélé, écoutez.
Ça fait 15 jours aujourd'hui qu'il ne s'entraîne plus, qu'il ne participe plus à aucune séance, qu'il est en attente d'un transfert possible, probable, il va se faire, il ne va pas se faire. Ponctuellement, oui, ça le met en difficulté pour lui, parce que je ne le prends pas, parce que c'est pas concevable que je puisse prendre un joueur qui est inactif pendant 15 jours.
Ousmane Dembélé finalement transféré de Dortmund à Barcelone pour remplacer Neymar, parce que c'est un jeu de chaise musicale aussi, ce marché des joueurs. Pourquoi Deschamps n'était pas content en quelques mots, Julien Marival?
Pas content parce qu'il compte beaucoup sur Ousmane Dembélé pour améliorer le niveau de l'équipe de France. Et Dembélé, il a joué quand même, il allait plus loin qu'Mbappé. C'est vrai que Dembélé, non seulement il n'a pas joué avec Dortmund, mais en plus, il ne s'est même pas entraîné.
Il a refusé de s'entraîner pour faire pression sur son club.
En lisant une interview, il disait « j'avais pas d'autre choix que de ne pas m'entraîner pour vraiment faire en sorte que Dortmund n'ait plus qu'une solution, c'est me transférer. » Et la plupart du temps, quand un joueur ne veut pas jouer et veut être transféré, il finit quand même quasiment tout le temps par être transféré.
Alors toutes ces sommes, elles donnent le tournis, ces sommes de ce mercato complètement fou, et à la fois elles rapportent aussi au club amateur français. C'est bien de le savoir. Pour quelles raisons? Comment ça marche?
La FIFA a créé une sorte de ce qu'on appelle les indemnités de formation, qui sont en fait touchées par les petits clubs amateurs dans lesquels jouait le joueur lorsqu'il était entre 7 et 13 ans, lorsqu'il était enfant ou ado. Par exemple, on parlait Dembélé, qui était donc vendu 140 millions d'euros par Dortmund à Barcelone. Dembélé, il a joué une seule petite saison au club amateur qui s'appelle Évreux FC 27, une seule petite saison. Et avec ce pourcentage, donc c'est un pourcentage en fait qui est calculé sur la somme du transfert, ce petit club amateur qui est en 5e division, je crois, aujourd'hui, va toucher à la bagatelle de 250 000 euros.
Et ben voilà, ça rapporte.
Bonne nouvelle.
Aussi au foot amateur. Merci beaucoup, Julien Marival. Votre article est à lire dans le Parisien Magazine aujourd'hui en France. C'est en partenariat avec RTL.
Vous écoutez RTL.